Je parle français, anglais, lingala.
Je parle français, italien et bosniaque.
Je parle français et comorien.
Et je parle urdu et punjabi.
Je parle français, RTP.
Je parle ça aussi, le chawi, la mazir.
Je parle avec mes parents en arabe.
Je parle l'arabe avec ma mère.
Je parle avec ma sœur en espagnol et en italien.
Je parle français avec ma père.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Inès,
bonsoir Audrey, bonsoir à tous nos invités et bonsoir au public.
Bienvenue dans l'émission Babel-Bresse Connexion, Radio B est en direct du théâtre Arphonème à Bourg-en-Bresse.
Et nous sommes ensemble les 30 prochaines minutes pour une restitution du projet Concert sous la langue, une rencontre entre des patoisans et des personnes issues de l'immigration.
Une émission dans le cadre de la semaine de la francophonie. Et juste après, la scène ouverte du Temps des Noyaux, délocalisée pour l'occasion au théâtre Arphonème.
Avec nous ce soir, Xavier Saïki, musicien-compositeur, et Serge Sana, lui aussi musicien-compositeur. Et vous êtes tous les deux à l'origine des concerts sous la langue. Bonsoir Xavier Saïki. Bonsoir Serge Sana.
Bonsoir.
Alors pour commencer déjà, c'est quoi le concert sous la langue ?
L'explication est dans le titre. La langue, c'est de la musique. Les langues que l'on ne comprend pas, c'est de la musique. Et le concert sous la langue, c'est un projet qui a visé à regrouper, à collecter tout un tas de paroles, de personnes, de locuteurs issus de l'immigration qui parlent plusieurs langues, d'intellectuels qui parlent plusieurs langues aussi, et dans le cadre du travail que nous avons fait dans l'Ain, de patoisans. Et sur ces collectages de paroles, en plusieurs langues et aussi en français, puisqu'il est question de s'exprimer sur les langues, sur son intimité avec la langue, sur l'histoire de sa langue, sur comment on la vit au quotidien. Sur ce collectage de paroles, on a écrit de la musique et qui donne le projet, donc le concert sous la langue. Et prochainement, devrait sortir un nouvel album du concert sous la langue qui va justement regrouper plusieurs collectages sous une forme un peu radiophonique, avec de la musique aussi, sur ces rencontres qui ont eu lieu entre des patoisans du monde, on va dire, de la ruralité et des personnes plutôt issues de l'immigration, du monde urbain, des rencontres au cours desquelles ils ont discuté des langues et il s'est créé, je pense, un lien, en tout cas des échanges qui étaient d'une belle richesse.
Alors pourquoi vous avez eu envie de mêler en fait c'est la musique avec ces rencontres ?
Je dirais qu'on est avant tout musicien. Et qu'on est aussi passionné par les affaires du son, en tout cas ce qui nous arrive dans les oreilles, et qu'avec Serge, on mêle en parallèle presque, je dirais, ces deux travaux, c'est-à-dire autant un travail musical, c'est-à-dire de jouer de nos instruments, soit dans l'improvisation, soit de la musique écrite. Et depuis pas mal d'années maintenant, on travaille sur la prise de son, le collectage, de laisser traîner les micros, de travailler autour de la parole. Dans l'espace public, dans la nature, en tout cas, moi je sais que je travaille beaucoup sur la réalisation de création sonore, comme on appelle ça, pour plein de situations, où la parole a une place assez importante. Autant d'un point de vue du son, de ce que ça nous apporte, en termes musical, sonore, mais aussi les mots ont un sens, et du coup, qu'est-ce que ça nous raconte ? Pour nous, c'était important de mélanger un peu tout ça. On a commencé à faire des travaux de portraits d'habitants sur le quartier des Minguettes, il y a quelques années. Et là, sur la langue, avec toute la musicalité qu'elle nous apporte, ça nous paraissait vraiment primordial de jouer de la musique avec ça et d'essayer d'entremêler au maximum le grain, le timbre, la personnalité des personnes qu'on avait interviewées avec de la musique qu'on pouvait écrire ou improviser.
Ben on va tout de suite écouter un extrait. Ça a été fait à Saint-Étienne-du-Bois. On écoute tout de suite.
Tu prends l'ouest du village, c'est-à-dire Charésia, si tu veux, contre la commune de Viria. Pour dire mon père et ma mère, on dit mon père et ma mère. Quand tu prends Lyonnière, contre le Vernon, pour dire mon père et ma mère, on dit mon pot et ma moule. Et ici, on dit mon père puis ma mère. Alors tu vois, sur la commune, tu as trois appellations différentes. Hein? Pourquoi ? Parce que sur Viria, c'est porté sur le « et ». Par contre, tu vas sur le Vermont, tu as beaucoup de mots qui sont en « ou ». Tu vas à Marmont, ils vont « chnaler ». Mais nous, on va « chnalo ». Hein? Les moyens de déplacement, autrefois, ils étaient très courts, hein? C'était les jambes, c'est tout. Hein? Alors le gars, pour aller à la fille, où il allait? Ben, sud Charlesia, il allait à la fille à Viria. Ou sud Viria, il venait à la fille à Charlesia. Et c'est pour ça que les patois se sont mélangés. Lyonnière, l'Arvermont, c'est pareil.
Donc expliquez-nous un peu les coulisses de la création de cet extrait.
Alors, la création de cet extrait, alors là, pour l'instant, c'est un extrait assez brut. On n'a pas encore créé de musique là-dessus. Bon, pour le public qui est là et qui va rester pour la deuxième partie de l'émission qui ne sera pas retransmise sur les ondes, mais qui sera en live dans le théâtre, il y aura peut-être une surprise. Voilà. Mais sinon, alors, ce témoignage, c'est une personne qui s'appelle Jo Calan, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Qui est un locuteur de patois-bressant de Saint-Étienne-du-Bois. Assez important. Hein. Et alors ça, c'est quelque chose où ben, moi, j'étais un peu présent. C'était le premier atelier qu'on faisait, la première rencontre. Où je me suis un peu pointé avec mes micros dans un cours de patois à la maison de Pays en Bresse de Saint-Étienne-du-Bois. Et c'est un. Comment on peut appeler ça c'est même pas un témoignage, c'est une partie, un truc qui s'est passé dans le. Une explication qui s'est passée dans le cours de patois. Et comme j'avais les micros, j'ai pas pu rater ça.
C'est-à-dire que, pour rebondir là-dessus, on évite, dans la pratique de collectage de paroles que l'on a, d'organiser des collectages où on est face à face, où l'on pose des questions, souvent avec des questions qui induisent des réponses. L'idée, c'est d'essayer de créer une dynamique où les gens s'expriment comme si on n'était pas là. Et c'est de cette manière qu'on arrive à voir des témoignages qui sont vivants, comme celui qu'on vient d'entendre, qui, pour le coup, regorge de musicalité, parce qu'il y a du rythme, il y a quand même du son. Et donc, c'est ça que l'on recherche dans le collectage, plutôt que voilà, une sorte d'interview un peu plate, d'essayer d'attraper comme ça des instants de paroles spontanées, mais sincères, en tout cas vivantes.
Et justement, qu'est-ce que ces instants avec les patoisans vous ont apporté en tant que musicien ?
Ben, il y a quand même, on a entendu l'extrait, il y a une belle musicalité dans les accents. Moi, j'ai un parcours linguistique assez particulier. Ma famille a beaucoup émigré, ils parlaient plusieurs langues. Ma langue maternelle, c'est l'italien. Et donc, moi, j'ai toujours baigné comme ça dans des musiques différentes entre le sarde, le sicilien, l'arabe, le français, l'italien, du pays. Donc oui, ça apporte déjà de la joie, parce que c'est toujours agréable. Enfin, là, j'ai entendu le public rire, donc c'est quand même, c'est pas rien, c'est toujours ça de prix. Et puis des informations sur les personnes, sur ce qu'elles sont, sur leur personnalité, ce qu'on n'a pas forcément avec un texte écrit, et effectivement l'opportunité ensuite d'en faire de la musique, qui est quand même notre cœur de métier. Et là, sur cet extrait, il y a quand même pas mal de choses intéressantes à faire, plus effectivement le témoignage de... Que ces personnes existent, qu'elles parlent, qu'elles ont encore quelque chose à dire.
La langue des gens en retard, du pays des sons de bouche. Parce qu'il n'y en a pas d'autres comme ça, de langue. En fait, nous, c'est des sons, c'est pas des mots.
C'était un extrait d'une création sonore faite par des élèves de CM2 de l'école de Chavannes-sur-Suran. Et donc vous êtes toujours à l'écoute de Radio B 90 FM et en direct du théâtre Arphonème.
Et avec nous aussi ce soir des participants au projet pour les patoisans Jean-Paul et Marie-Thérèse.
Et Habiba Shafik, formatrice à Atelec, une association pour renforcer la confiance en soi par la parole et l'écriture. Bonsoir Habiba.
Bonsoir.
Et donc Naïma, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on écoute un extrait appelé « Avant », enregistré pendant une visite de l'écomusée Maison de Pays en Bresse à Saint-Étienne-du-Bois en septembre 2020.
Avant, c'est sport, comme tu as fait le pain, c'est le sport. Maintenant, tout la machine, nous, on est fatigués tout le temps. Tu réveilles fatigué. Tu as fait quoi cool, dormir, mais fatigué. Mais avant, les femmes, elles réveillent tôt. Mais il y a plein d'énergie, il y a plein... Pas avant, quand tu veux de l'eau, va chercher de l'eau pour boire. Maintenant, tout est proche, mais il n'y a pas de... Le goût, pas de goût. Par exemple, quand je prépare le pain, je fais la farine, de l'eau, tu as fait la force. Mmh. Quand tu manges le pain, par exemple, le four de bois et tout, le goût, il y a de goût. Les maladies, beaucoup. Pourquoi beaucoup de maladies? Parce que les produits, on achète les produits faciles. Supermarché, tac, 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 oui. Tac. Allez. Hop. On va rentrer dans les
communes. Oui, c'est vrai.
C'est pour ça que nous, on aime la nature, la terre. Quand on en revient à la terre, ça fait du bien.
Moi, souvent avec mes enfants ou petits-enfants, j'appelle ça la génération eau chaude. Parce que je trouve que ça a été un virage. Nous, quand on voulait de l'eau chaude, on se lavait toujours à l'eau froide, hein, de toute façon, quand ma génération. Quand on était une famille nombreuse, il y avait un tout petit peu d'eau chaude dans la bouillotte, on appelait ça la bouillotte du fourneau. Il fallait que l'eau chaude, elle soit pour tout le monde, quoi. Hein. On partageait, on vivait avec peu de choses, mais on était heureux, quoi.
Les vêtements qu'on t'a fait avec la main, avec, c'est pas le savon, un grand savon, comme savon de Marseille, mais nature. Tu sais, les vêtements, ils propres comme ça. Le blanc, blanc, le... Maintenant, blanc-gris, que tu veux. Ou le blanc, mais un peu gris. C'est la machine, mais c'est pas avant. Ni Javel, ni rien. Que savon, la soleil, la peau, bien. Quand tu aimes quelque chose, t'as pas sans la fatigue quand t'aimes quelque chose.
Voilà.
Oui. Comme tu as fait, par exemple, quelque chose pour quelqu'un, quand tu regardes quelqu'un, elle est heureuse, ça y est, tu ne sens pas la fatigue pour tes enfants, pour la famille ou les voisins.
Ça me fait plaisir de voir des jeunes qui parlent de cette façon, parce que c'est vrai qu'on vit tous comme des malades, on ne fait plus rien de physique. Par contre, on se dépêche pour aller à la salle de gym. Alors ça, c'est complètement... Là, ça me fait vraiment plaisir de vous entendre parler de cette façon, parce que... Ça m'émeut même. Si, franchement, c'est... Si. Bravo.
Il va bientôt pleurer.
Ouais.
Moi, j'aime pas regarder quelque chose dans l'Internet. Je veux bien chercher dans le livre, par exemple. Quand tu cherches quelque chose, tu tournes les pages, tu connais plein de choses. Quand tu trouves le résultat, c'est pas facile. Quand t'apprends quelque chose pas facile, tu sens. Comme les riches, il y a d'argent, mais ça fait rien. Ça fait rien, mais quand tu travailles avec quelque chose, ou finalement tu prends, quelque chose de cher qui lui tient à cœur, quoi.
Donc un extrait très vivant entre Naïma et Jean-Paul. Donc Naïma, dites-nous un peu comment vous avez participé à ce projet.
Expérience. Désolée pour l'accent ou la langue, parce que j'ai des bruits, un petit peu. Pour moi, ça fait du bien. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Le musée.
La vieille ferme Bressane.
Voilà. Ouais. Parce que moi aussi, c'est mon style. Les trucs avant. J'aimerais bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, Habiba, dans mon projet, je fais une maison comme avant. Tout simple, tout facile, les trucs pas trop chargés, pas trop... Parce que quand tu vois beaucoup de choses, la tête, elle fait mal. Quand tu vois des choses simples, ça fait du bien. Ouais.
Et donc de rencontrer des personnes qui parlent du vieux français, du patois, comme Jean-Paul, ça vous a fait quoi?
Dans ma tête, j'ai dit, c'est pas moi. C'est pas moi tout seul. Il y a des gens aussi, elles trappent des choses avant. Par exemple, comme la langue, les articles... Même le caractère, c'est dur.
Et donc Habiba, vous aide donc à parler français, c'est ça? Donc Habiba, comment vous aidez ces nouveaux arrivants à apprendre notre langue qui est un peu compliquée quand même?
Bah, déjà, l'association Atelec anime des ateliers d'expression orale et écrite aussi. Et on se saisit de beaucoup de projets culturels parce que, pour moi, apprendre le français, c'est le vivre, déjà. Donc, tous les projets où on va vivre un moment en français, vivre mieux en français cette langue, eh ben, on est OK pour foncer avec ce projet. Donc Xavier et Serge sont venus me voir en me disant ben, on aimerait bien travailler sur les langues d'origine et les langues et la langue française à travers des rythmes, à travers la prosodie, à travers... Donc ben, moi, ça m'a tout de suite plu parce que je me suis dit, ben oui, quand on apprend une langue, c'est pas que des mots, c'est aussi vivre une langue, c'est aussi à travers sa culture, à travers les sons, le ton, l'émotion, enfin tout ce qui va avec. Donc pour moi, ça pouvait être que du bonheur que de travailler sur ce projet-là. Donc je l'ai proposé au groupe Déclic, dont Naïma en fait partie. Et l'idée de travailler aussi avec l'écomusée, c'était de découvrir le patois. C'est une langue qu'on ne connaît pas forcément. C'est quoi une langue? Est-ce que c'est une langue vivante? Est-ce que c'est une langue morte? C'est quoi les objets d'avant? C'est quoi les langues d'avant? Voilà. Donc ça nous a permis aussi de travailler à travers cette thématique. Et d'apporter du vocabulaire, de rencontrer d'autres personnes, d'échanger, de vivre un moment la langue française. Voilà, tout simplement.
Et Naïma, ça t'a apporté quoi dans ta pratique du français de faire cette rencontre avec Jean-Paul et les autres?
Ça t'a fait quoi de rencontrer d'autres personnes?
Est-ce que de rencontrer d'autres Français, d'autres personnes qui parlent français, ça t'aide à apprendre de nouveaux mots?
Oui, etc. Oui, obligé. Obligé quelqu'un, il aide. Obligé. Tout seul, non. C'est pas...
Je crois que ce qui est très difficile, et le groupe est très demandeur, c'est justement des rencontres avec des personnes natives. Parce que c'est difficile, alors surtout avec le contexte Covid, de vivre la langue française en travers quatre murs chez soi, parce qu'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation, et du coup, on est isolé. Et forcément, on n'apprend pas, on ne peut pas apprendre. Hein. On vit en France, sans vivre en France, j'ai envie de dire, dans ces conditions, en tout cas pour la langue française. Et c'est vrai que là, ça a été un moment de bonheur de pouvoir échanger pendant les rencontres, quand on est parti au musée. Donc, vous avez pu discuter avec les groupes?
Oui. Ouais. Ouais.
Et quand on est parti au musée, on a discuté avec toutes les personnes?
Oui, oui, oui. On a discuté.
On a discuté de quoi?
Les articles, je sais pas.
Les objets?
Oui, les objets. Comment les gens ils vivent avant.
Et ça t'a fait penser à quoi? De voir les objets d'avant.
Ça fait du bien pour moi.
Ça t'a fait du bien.
Ouais.
Je sais que Naïma m'a dit, mais moi, ça me rappelle aussi mon enfance. Donc, il y a beaucoup d'émotions dans ces moments-là. C'est le cœur qui parle, en fait. Voilà, c'était ça. Et quand le cœur parle, on est vraiment dans le dialogue spontané. On ne réfléchit pas.
Moi, ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, ce qu'on entend d'ailleurs dans l'extrait que vous avez diffusé, c'est que, contre toute attente, ce que Naïma a dit sur la manière de vivre avant, sur ce qu'elle dit maintenant d'ailleurs, sur son projet d'avoir un appartement un peu, on va dire, un peu zen, avec peu d'objets, ça fait écho aux patoisans qui étaient là et qui se sont dit, mais en fait, on vit des choses presque pareilles. On a les mêmes sensations sur ce mode de vie que l'on vit maintenant, qui est très, très rapide, très frénétique, avec beaucoup de consommation. Hein. Vous avez pas mal dit ça aussi. Hein.
Oui,
vous avez parlé
oui,
de ça.
Oui, c'est ça.
On veut toujours plus, alors que voilà, peut-être qu'avec peu de choses, et ça rejoint ce que vous disiez, on peut aussi être heureux. Et ça, d'avoir cette définition du bonheur à travers la rencontre qu'ils ont eue avec les patoisans, ça m'a touché, moi aussi.
Oui, c'est ça. Je veux bien dire plein de mots, mais je trouve pas. Dans le français, c'est dur un petit peu, c'est ça.
C'est pour ça qu'il faut essayer.
Ah oui.
Dis-le même si c'est
l'exercice pas... aussi, voilà, ça fait partie de la rencontre.
Alors, qu'est-ce que tu voulais dire sur la rencontre? quand on est parti au musée, qu'est-ce que tu as gardé dans ta tête? Qu'est-ce que tu as aimé?
Le musée en général.
Comment on vivait avant?
Oui. Oui, avec les objets simples.
Par exemple, donne des noms.
Par exemple, quand il est préparé le pain, comment il met dans... je ne sais pas quand...
Oui, une sorte de corbeille. Comme
oui,
ça,
c'est ça, pour rester beaucoup de temps.
Pour conserver?
Oui.
Conserver.
La chambre?
Oui, les chambres pour les enfants, pour les habiller, comment...
Les habits?
Oui, les femmes, surtout les femmes.
Oui.
Les broderies?
Les broderies, voilà, c'est ça.
Comment les femmes s'habillaient avant?
Oui, oui, c'est ça. Ça fait... Elle reste dans ma tête, cette expérience.
Alors, Habiba, une dernière question. Pourquoi ces personnes apprennent le français maintenant, après plusieurs années en France?
Alors ça, c'est une très bonne question. Parce que je pense que pour vouloir apprendre une langue et la vivre, encore une fois, ce n'est pas que apprendre une langue entre quatre murs, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un déclic. Il faut qu'on ait envie, il faut qu'il y ait une motivation, un déclic, donc des situations de vie qui changent. Alors, ça peut être, je sais pas, un divorce, donc on se retrouve tout seul, et donc du coup, on est dans un besoin d'apprendre cette langue pour pouvoir vivre tout simplement la langue et en France. Pour ses démarches au quotidien, pour partager avec d'autres, pour aller chercher un travail. Les raisons sont multiples en fonction des vies de chacun, des histoires personnelles de chacun. Et je crois que c'est quand il y a eu ce déclic. On prend conscience que il faut passer à l'étape de pouvoir parler la langue du pays où on vit. Alors ça peut être à n'importe quel âge, ça peut être à n'importe quel moment de sa vie. Ce qui est difficile, je trouve, c'est quand la personne ne ressent pas tout de suite ce besoin et passe plusieurs années dans une langue qu'on appelle l'interlangue. C'est-à-dire qu'on a quelques mots, on en invente un peu quelques-uns, on se débrouille plus ou moins avec ça. Et puis ça s'installe dans le temps, et le jour où on est vraiment dans une situation où on se rend compte et on prend conscience qu'on a besoin de passer à une autre étape, c'est-à-dire de se faire comprendre et de parler cette langue, eh ben c'est très difficile de... On dit, nous, que la langue est fossilisée, c'est-à-dire que on s'est débrouillé avec ce petit vocabulaire pendant plusieurs années, on a contourné comme on a pu et ça marchait bien. Et pour casser ces habitudes et revenir vraiment dans un travail d'apprentissage d'une langue, là, c'est difficile. Je trouve que c'est plus facile quand la personne arrive et elle a tout de suite ce besoin et elle rentre tout de suite dans cet apprentissage d'une langue vivante, parce qu'elle vit. Parce que apprendre aussi une langue, ça fait bouger beaucoup d'habitudes chez la personne. C'est aussi sortir de sa zone de confort. Je ne veux pas dire qu'on se met en danger, mais ça veut dire oser aller vers les autres, oser parler, aller faire ses démarches toute seule. Ça demande beaucoup d'efforts. Donc, ce n'est pas facile. Voilà.
Donc, merci Naïma, merci Habiba. On va faire rentrer donc Jean-Paul et Marie-Thérèse.
Bonjour, madame, messieurs. Désolée pour le retard. Les gens qui sont toujours, toujours en retard, ils disent ça.
Vous êtes toujours sur Radio B 90 FM et en direct du théâtre Arphonème. Dans quelques minutes, on va céder notre place à la scène ouverte du Temps des Noyaux.
Et les patoisans ont pris place autour de la table. Jean-Paul, bonsoir.
Bonsoir.
Et Marie-Thérèse, bonsoir.
Qu'on va parler du projet avec vous, juste après un extrait, l'échange d'un patoisan, vous Jean-Paul, avec un homme issu de l'immigration. L'extrait a été enregistré pendant une rencontre au centre social de la Ressouze l'été dernier.
Par exemple, vous parlez la langue patois. Bon, moi j'aimerais te demander, 40 ans plus tard, la patois ça reste où?
Non, non, il ne restera pas grand-chose, c'est ce que je dis. Après ma génération, moi, là, la génération qui vient après moi, c'est fini. Ils ont très peu entendu parler de patois-bressan et ils ne le parleront certainement plus, mais c'est dommage. Chaque fois qu'une langue se perd, c'est toute une culture qui se perd. Donc, alors, effectivement, moi, ma mère, par exemple, me disait qu'elle n'avait jamais entendu un mot de français quand elle était allée à l'école à 6 ans, quoi, à 5 ou 6 ans. Et à l'école, du jour au lendemain, ils n'avaient plus le droit de parler le patois. Ils ne devaient parler que le français.
C'est un moment à la capitale ivoirienne, ils ont interdit d'autres enfants de parler leur langue dans la cour de l'école. Je ne comprends pas, c'est une décision débile, selon moi. Parce que maintenant, il y a des enfants à Abidjan, ils parlent le noussi, ils parlent le français, sa langue, ils ne connaissent pas. Arrivé à la fin, son village, même, il ne reconnaît plus. C'est douloureux quand même. Parce que en face des personnes, tu vas dire, je viens de là. Mais et puis, tu ne parles pas la langue. C'est douloureux pour moi. Moi, par exemple, quand je vais à quelque part, même dans un village gourou, je leur dis, je suis gourou. Et tout de suite, on me parle en gourou. Ça rentre, mais ça ne sort pas. C'est ça qui est douloureux. Quand ils parlent, oui, moi, j'ai compris. Mais si je les réponds en français, c'est palable déjà. C'est même foutaise. Il faut la langue. Parce que là, déjà vous, à votre âge, vous êtes déjà avancé. Est-ce que vous parlez à votre enfant la langue patois?
Non, effectivement, après ça s'est complètement perdu. Moi, j'ai continué à le garder un peu parce que mes parents entre eux, ils se parlaient qu'en patois entre eux. Mais moi, après toute notre génération, nous, on est allé à l'école, on n'apprenait que le français. Et puis on a laissé tomber un peu. C'est vrai que je ne l'ai jamais appris à mes enfants. J'aurais bien aimé, mais bon, ça n'a jamais bien marché. Ils connaissent 2-3 mots, c'est tout, quoi. Hein. Cache-toi donc, tais-toi donc.
Le problème, il est inquiet. Pour qu'ils se remettent, ce n'est pas facile. C'est-à-dire, ils pensent au futur. Ils veulent laisser la langue avant de partir. Mais c'est à qui il va laisser, il ne voit pas la personne. Il est inquiet. C'est ça qui est intéressant dans son discours. Il veut transmettre sa langue. Mais à qui? À personne. C'est l'inquiétude du vieux. Et moi, je le comprends, mais désolé pour lui, ce serait pas facile. Ce serait pas facile.
Alors Jean-Paul, c'est vous le patoisan qui échangeait avec Amaury, d'origine ivoirienne. Quel souvenir vous en gardez?
Ben effectivement, il m'a reposé la question qu'on se pose tous. Il y a un moment donné où les patois, puisque dans toute la France il y avait plein de patois, chaque région avait son patois, chaque même petit coin. Et puis donc, il y a eu l'obligation de parler le français pour tout le monde. Alors que ça a mis plusieurs années, hein, effectivement. Mais déjà sous François Ier, il y avait déjà les premières pauses du français qui devait être la langue de tout le monde. Et puis, peu à peu, ça s'est encore un peu plus officialisé. Alors, ce qui est un petit peu dommage, ce qui est un peu embêtant, c'est que mes parents, par exemple, on leur a complètement empêché de parler le patois. Les générations qui sont venues après aussi. Et puis, maintenant, ça revient un petit peu au goût du jour, c'est-à-dire qu'il y a des lois qui mènent, il y a la loi Molac, par exemple, au mois d'avril dernier, qui fait que les langues régionales et les cultures régionales sont reconnues comme faisant partie du patrimoine français. Il y a eu au mois de décembre une circulaire du ministère de l'Éducation disant que on devait favoriser et développer les cultures et les langues régionales. C'est un peu tard. C'est dommage, quoi. C'est dommage. C'est trop tard, je pense, quoi. Mais bon,
vous êtes quand même un peu plus optimiste.
Oui, il y a quand même des choses
qui se font. Parce qu'Amoury vous sent très inquiet.
Non. C'est vrai que, par exemple, à Saint-Étienne-du-Bois, on a un groupe de patoisans. On se réunit une fois par mois. On était 35, un petit peu moins depuis le Covid. Mais on était 35 inscrits et puis qui étaient assez assidus. Et c'est vrai que là, on continue à développer un petit peu. On parle, on écrit le patois, on le lit. Et on a l'espérance qu'on peut avoir, c'est qu'on a deux, trois jeunes qui ont 23, 24 ans, qui viennent, qui sont très, très, très assidus, qui nous bousculent un peu en nous disant « Oui, mais pourquoi on dit ça comme ça, pas autrement ?» Enfin, et qui en veulent, hein, qui cherchent. Qui, hein. Et puis, sur un plan un peu plus... sur le plan un peu plus général, il me semble que depuis qu'on a eu une fête internationale d'une rencontre internationale des groupes patoisans de tout le franco-provençal, hein, qui va du Jura jusqu'à la Drôme, de Saint-Étienne jusque de l'autre côté des Alpes, puisque le franco-provençal comprend aussi le Piémont, le Val d'Aoste, et puis toute une bonne partie de la Suisse, là, du côté de la France. Donc tous les ans, on avait une rencontre internationale. On échange, on se rencontre. Et il y en a une qui a eu lieu à Bourg en 2012. Et on avait même fait une semaine de promotion du patois sur toute la région de la Bresse. Et il me semble que depuis ce moment-là, il y avait eu 700 personnes, hein, 800 personnes qui étaient venues d'un peu toutes les régions du Franco-Provençal. Et ça a redonné un petit élan, même à la Bresse. Moi, je trouve qu'il y a plus de gens quand on se rencontre où on se dit quelques mots en patois, quoi.
Le patois n'est pas encore mort, c'est une bonne nouvelle.
Le patois n'est encore pas mort.
Donc Marie-Thérèse, vous avez aussi participé au projet. Vous en gardez quel souvenir ?
Bon, je trouve que de faire partie d'un groupe de patois, déjà, c'est aussi retrouver le patois de nos parents, la langue de nos parents et de nos grands-parents. Et puis, je trouve que en faisant partie d'un groupe, on apprend l'écriture aussi. Parce que traduire le français à patois, le patois, il est tellement différent, comme disait M. Callan, il est tellement différent d'un village à un autre qu'on l'écrit n'importe comment si on l'écrit seul. Et là, avec le groupe, on travaille tous les samedis, après, un samedi par mois, où on travaille vraiment la langue avec, je sais pas, comment, c'était monsieur...
La façon dont on l'écrit, ça a été aussi travailler avec des profs de linguistique de Grenoble, de Lyon, Jean-Baptiste Martin, par exemple, qui est donc un spécialiste, hein, et qui nous a aidés à faire les dictionnaires qu'on a faits. Hein.
Donc Xavier, Serge, peut-être un mot sur donc, cette rencontre de patoisans avec des personnes issues de l'immigration.
Oui, c'est vrai que chaque fois qu'on a participé au groupe, aussi bien vers la place Georges Oiseau, là où on avait fait des échanges entre... Il y avait beaucoup de dames qui étaient autour de la table, ça c'est vrai, peut-être les messieurs au travail et les dames, elles ont un moment l'après-midi. Et c'est vrai qu'on avait fait plein d'échanges au niveau de la cuisine, de la nourriture, comment on cuisinait. Aussi une dame, je me souviens, qui m'avait raconté qu'elle était fière de son fils qui avait acheté une maison à côté de Bourg. Et c'est vrai qu'elle, elle passait beaucoup de temps à la maison pour donner à manger, pour préparer la nourriture. Et c'est vrai qu'elle n'avait pas pu évoluer comme avait évolué son fils. Et j'avais trouvé ça super. On avait fait beaucoup d'échanges sur les gens de différentes... différents pays, quand même.
Enfin, je pense que ça a été une sacrée ouverture pour tout le monde, pour nous aussi. Hein. C'était pas évident hein, quand on les a vus débarquer avec leur matériel, Xavier et Serge. C'était pas évident pour les patoisans de Saint-Étienne-du-Bois. Ils se demandaient bien dans quelle aventure on allait se lancer. Et finalement, bon, c'est vrai que c'était super, quoi, et que tous les échos qu'on a eus pour tous ceux qui ont participé, vraiment, ils ont vraiment apprécié cet échange de culture, cet échange de... Et on a aussi travaillé sur les langues, la façon dont on s'appropriait la langue, la façon dont elle nous est venue, la façon dont... C'est intéressant, oui.
Alors, Xavier,
ça s'est pas fait tout de suite. Ça s'est passé en plusieurs temps assez différents. C'est-à-dire qu'au début, on a quand même travaillé de façon assez séparée. On est intervenu, enfin, on s'est pointé avec les micros dans les cours de patois, on a découvert un peu cette langue, on a rencontré les personnes, on a commencé à imaginer un peu ce qu'on pouvait bien faire avec tout ça. Et en parallèle, il se passait un petit peu la même chose dans les cours d'Atelec au centre social de la Croix-Blanche avec Habiba et les dames. Où là, on travaillait sur la prosodie, sur la diversité des langues, sur l'élocution, où on a pour le coup fabriqué une expo sonore des choses sous casque avec plein de choses à écouter. Et dans ces rencontres, on s'est assez vite rendu compte qu'il y avait pas mal de problématiques similaires. Le fait de la transmission, de transmettre sa langue à ses enfants. Est-ce que ses enfants vont continuer à parler la langue ? Quelle langue ? Qu'est-ce que c'est que d'être dans un pays et d'être habité de plusieurs langues ? À quel endroit on parle quelle langue ? Avec qui ? Dans quelle situation ? On a trouvé pas mal de correspondances comme ça. Aussi, à l'écomusée, il y a quand même une ode au monde rural d'antan qui est aussi assez présent dans le Maghreb. En discutant, en échangeant, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir pas mal de correspondances sur des modes de vie pas si anciens que ça. Donc on a eu l'idée d'organiser ces rencontres. Alors l'idée, on ne l'a pas eu tout seul aussi, c'est Alexia du Centre social de la Ressouze qui a dit « Ah bah cette année, la sortie du groupe Atelec, eh ben en fait, on a envie de la faire au musée des Patoisans. » Donc on a vite embarqué, on s'est dit « Super, c'est parti !» Alors on a organisé des rencontres entre des habitants de la Bresse, plutôt rurale, locuteurs de patois, avec des dames plutôt de la périphérie de la ville de Bourg-en-Bresse, du milieu urbain, qui viennent de l'immigration en apprentissage du français. Donc à la base, on s'est dit « Ah ouais, c'est super, on va organiser des rencontres de ces gens-là autour de la langue. » Ah super, le prétexte. C'était surtout un bon moyen pour que tous ces gens-là enfin se rencontrent. La langue, finalement, c'était juste un bon prétexte. Enfin, de mon point de vue. C'était bien.
Donc, on a écouté plusieurs de vos créations, donc plus ou moins achevées. Quand est-ce qu'on va retrouver l'album ? Quand est-ce qu'il sort ? Où c'est qu'on le retrouve ?
Alors cet album, on a déjà fait un album hein, sur la région lyonnaise, sur les langues de la région lyonnaise, qui est un album très très musical, qui joue sur scène d'ailleurs, qui est une forme scénique.
On a des disques à vendre.
Et cet album-là, on va plus aller, je pense, dans quelque chose avec beaucoup plus de paroles, peut-être moins de musique, une musique en second plan, une musique qui n'est pas faite forcément pour être jouée sur scène, mais qui est plus... d'un genre un peu électroacoustique qui vient plus accompagner les paroles. Et donc, on est en train d'y travailler. Ça devrait partir au pressage, je pense, fin avril. Donc, on devrait pouvoir le trouver en mai, je pense, à sa sortie.
On peut aller l'acheter où ?
Alors, probablement, soit sur le site du Concert sous la langue, ou alors auprès du distributeur Inouï Distribution qui a distribué le premier.
Donc merci Jean-Paul, merci Marie-Thérèse. Et donc on va peut-être accueillir Rimé s'il nous fait une petite performance personnelle.
On a inventé les mots, donc ça vient de nulle part. Bah, si, on peut les comprendre, mais c'est ceux qui la parlent qui la comprennent.
Donc, jouer avec la sonorité des mots, c'est ce que fait l'artiste burgien Rimé. Il est avec nous ce soir. Bonsoir, Rimé.
Bonsoir, ça va ?
Ça va. Ça va super, merci.
Cool.
Alors déjà, Rimé, une petite question, c'est quoi une langue pour vous ?
Une langue ? C'est des sons, des lettres, des mots qu'on comprend ou qu'on comprend pas. C'est de la poésie, ouais, voilà.
Et donc, qu'est-ce que tous ces échanges vous ont inspiré alors ?
Ouais, c'est Xavier, il m'a dit tout à l'heure, t'écriras un truc pendant qu'on fait la radio et tu fais un texte. Ok. Bon, j'ai essayé de faire un truc. Je sais pas ce que ça va donner hein, parce que je l'ai lu dans ma tête. Okay. Il y a des sonorités dans le vent, des mélodies plus que chantantes, des voix dans le verbe et dans les mots qui s'organisent en résistantes. Des croisements, des tours d'horizon, des engagements sur le bout de la langue. Tant pis si t'as pas tout capté, laisse-toi aller, le navire tangue. C'est bien beau d'écrire des poèmes, mais qu'est-ce qu'on dit en bas de la page? C'est mignon, gentil, joli, ou un spectaculaire carnage? Il paraît que les mots ont un sens et que les accents sont prononcés. C'est du patois, du chavérien. Bordel, c'est un joli merdier. Et c'est pour ça que ça prend aux tripes, que ça sonne vrai au fond du bide. Ni autotune, ni vocodeur, aucun besoin de remplir du vide. Et puis pour l'Asie, quand en accord, accord aux propos des auteurs, on fait un clin d'œil aux mentors distorsionneurs de fréquenceurs. Alors merci pour les micros, laissés libres au coin de nos rues. Et puis merci pour les saveurs mélangées, goûtées, entendues. Tant pis si ça fourche, si ça accroche, si ça se répète comme un écho. On vit la langue dans tous ses mots et ses erreurs sur le même bateau.
Merci Rimé pour cette création unique et spéciale pour cette émission. Merci encore Rimé, c'est la fin de cette émission Babel-Bresse Connexion en direct du théâtre Arphonème.
Merci Xavier Saïki, merci Serge Sana. Merci à tous nos invités, au théâtre Arphonème et à notre merveilleux public, à Voix Mêlée aussi et à Jimmy à la technique.
Merci.
Je parle français, anglais et lingala.
Je parle français, italien et bosniaque.
Je parle français et comorien.
Et je parle urdu et punjabi.
Je parle français et
tibétain. Je parle ça aussi, le chaoui, la mazir.
Je parle avec mes parents en arabe.
Je parle l'arabe avec ma mère.
Je parle avec ma sœur en espagnol et en italien.
Je parle français avec mon père.
Kai mi parole assassini, barba mi leke, jai kinke hindi, abena ki guarani. Kai mi parole assassini, barba mi leke, jai kinke hindi.